Bonjour, vous êtes sur Altitude FM avec Fredou. Dans les croisières de Fredou, je vous raconte tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les croisières, le côté glamour d'un hôtel sur la mer, les coulisses et l'organisation de ces vacances. Aujourd'hui, je vous parle des tempêtes. Si vous voulez faire votre première croisière, ne choisissez pas de passer par l'Atlantique en automne ou hiver. N'allez pas non plus sous les tropiques à la saison des pluies. Il y a des tempêtes assez sévères et vous ne savez pas si vous avez le mal de mer. Si vous voulez vraiment faire une croisière, essayez d'abord sur la Méditerranée. Vous sentirez si vous êtes sujet au mal de mer. La traversée de l'Atlantique, c'est 7 jours de mer qui peuvent être 7 jours de tempête, comme zéro. Partir entre l'automne et le printemps est un risque important de jours de tempête. La Méditerranée peut vous préparer des surprises, mais les tempêtes durent moins longtemps. Je ne peux pas dire que j'ai peur en mer. Je trouve l'aventure trop excitante. J'ai l'impression que rien ne peut arriver. Quand on me parle de bateau, j'ai les yeux rêveurs comme Marius dans la trilogie de Pagnol, quand il regarde partir les trois mâts avec envie. La mer m'appelle. Il faut avouer que la terre m'appelle aussi, après plusieurs semaines passées en mer. Je suis contente de partir comme de revenir. Et je suis triste de rentrer quand même, car je ne serai plus en mer. Mon premier navire a été un ferry pour la Corse. Dès que j'ai posé le pied dessus, j'ai été frappée par le virus de la mer. Je suis montée tout en haut du bateau, en plein orage, et j'avais l'impression de renaître. Je n'ai pas du tout été malade et j'ai même pris le ferry entre la Corse et la Sardaigne. Je trouvais tout beau, tout merveilleux et je n'avais qu'une hâte, remonter sur un bateau. 2 ans plus tard, je faisais ma première croisière en Australie. Je réalisais alors 2 rêves, visiter l'Australie et aller en mer. Parfois, les rêves peuvent se transformer en cauchemars. Heureusement, je n'avais pas encore regardé le film Titanic. Le premier jour, j'ai dormi à cause du décalage horaire. J'étais arrivée 2 jours plus tôt par avion à Brisbane et j'avais visité avec mon futur mari le parc des koalas. Je tremblais à l'aéroport car il était indiqué de ne pas faire entrer de nourriture et un douanier a ouvert ma valise remplie de chocolat et de biscuits. Le douanier a ri et a refermé la valise. Donc, le premier jour, au milieu de mon sommeil, j'entendais des vagues déferler contre la coque du bateau, qui était secouée comme un shaker. Mais que se passait-il là-haut? Le capitaine annonça que nous étions dans la queue d'un cyclone avec des vents de force 9 ou 10. Je pensais que nous allions tous mourir au milieu de mes rêves. Je me suis réveillée vers 20h. Et je suis partie retrouver mon mari qui travaillait dans le pub, devant une piste de danse. C'était une soirée où nous devions tous porter des habits de cocktail et j'ai mis mes talons avec la robe de bal au milieu d'un cyclone. La vie sur un bateau semble tout droit sortir d'une autre époque. Tant bien que mal, j'ai retrouvé le chemin pour aller vers le pub, en me tenant au bar qui orne presque tous les murs du bateau, alors que ce dernier tanguait de tout son soûl. Les coursives étaient pratiquement vides, et quand je suis arrivée au pub, il n'y avait qu'un couple de passagers américains, d'un certain âge, qui fêtaient leurs 50 ans de mariage. Les musiciens essayaient tant bien que mal de retenir leur instrument qui glissait d'un côté à l'autre de la petite scène, au rythme des vagues en furie. Le groupe devait rester travailler tant qu'il y avait des passagers qui ont demandé « My Way » de Frank Sinatra et ont dansé dessus comme 2 amoureux au milieu de la tourmente. J'ai écouté les paroles en anglais pour la première fois qui n'ont rien à voir avec les paroles françaises. C'est plutôt les paroles d'un homme qui fait le bilan de sa vie. Cependant, la scène était très romantique. À minuit, l'orchestre a enfin pu ranger ses instruments car le couple était parti. Le bateau était désert, mais avec les musiciens, nous avons quand même été manger au buffet tardif, ouvert jusqu'à 4 heures du matin à l'époque. Et nous avons discuté au milieu du cyclone en nous goinfrant de pizza et de cheesecake. Lors de ma première traversée de l'Atlantique, l'Europe était frappée par une tempête qui a mis un ferry irlandais en péril. Les vagues avaient des creux de 11 à 15 mètres, mais alors que je mangeais sur le pont 12, je voyais des vagues monter jusqu'aux vitres, soit plutôt 20 mètres. C'était très impressionnant. Le buffet était presque vide. Beaucoup de passagers étaient malades et nous ne les avons revus que le lendemain, alors que les cachets contre le mal de mer faisaient effet. Le deuxième jour, alors que je sortais de la douche vers 18 heures, le bateau a fait un énorme bruit et je suis tombée sur le lit. Le capitaine a tout de suite pris la parole. Une grosse vague avait frappé le bateau et fait des dégâts. Sur le pont 6, dans le restaurant, deux vitres de 1 mètre sur 1 mètre étaient cassées. Des panneaux de bois les ont remplacés pendant toute la croisière. J'ai rencontré un passager avec le bras cassé à Tortola, aux îles Vierges britanniques, qui m'a raconté son aventure. Il faisait la queue devant le restaurant quand la vague a frappé, le faisant tomber ainsi que d'autres vacanciers. Une des danseuses de la troupe du bateau, qui propose des spectacles tous les deux soirs, a eu un mal de mer tellement important que le docteur a dû l'endormir jusqu'au port suivant et elle ne dansera jamais sur les eaux. J'ai vu un chanteur, blanc comme de la cire, presque vert, marchant un sachet collé sur sa bouche, aidé par un collègue pour sortir prendre l'air. We come on this sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. Sur une croisière vers les Canaries, même scénario. Une grosse tempête de novembre et la route du Rhum, la compétition de voile, est retardée, mais notre navire passe. Alors que nous mangeons au buffet, un musicien qui faisait sa première croisière trouve bizarre que le restaurant soit vide. Mon mari et moi éclatons de rire et je réponds « On est en pleine tempête et les passagers sont malades. Les différents ponts sont vides. » Quelques passagers ont le pied marin et déambulent. J'ai dû aider une femme qui n'arrivait pas à remettre sur pied sa mère, qui était tombée à cause des secousses du bateau. Elle devait faire environ 90 kilos et on a dû mettre toutes nos forces en commun pour la relever. Quand j'ai demandé pourquoi elle n'était pas restée dans sa cabine par précaution, sa fille me répondit qu'elle s'ennuyait. Spoiler alerte. On ne se rend pas compte que c'est vraiment dangereux quand on est dans une tempête. Il n'est pas nécessaire de jouer au cacou. C'est une mauvaise idée, même si je l'ai déjà eu fait. Il suffit d'un sursaut à cause d'une vague plus forte et on est bon pour se ramasser. C'est rigolo d'être sur le pont et de regarder la mer monter et descendre. On se prend pour le roi ou la reine du monde, mais on joue avec le feu. Se tenir aux rampes, ne pas prendre les ascenseurs, préférer rester dans un lieu plutôt que de se balader partout, surtout si on n'est plus tout jeune. La cabine est sûrement le lieu le plus sûr. Conseil, si vous avez le mal de mer, il faut manger. Et il faut aussi savoir s'arrêter, sinon on peut avoir mal au cœur d'avoir trop mangé. J'en ai fait l'expérience un jour de Noël. Car sachez-le, une tempête peut être soudaine et arriver en quelques minutes et être terrible. Un moment, le ciel est bleu, on marche tranquillement et soudain, on voit au loin une masse noire qui se rapproche très vite. On est fasciné par le ciel qui devient tout noir et le vent qui tourbillonne. Le bateau qui commence à se soulever d'avant en arrière, comme sur un manège. On reste sur le pont. On n'a aucune conscience du danger, alors que la majeure partie des passagers sont partis se réfugier dans leur cabine. On prend une vidéo du pont qui s'emballe dans un balancement de plus en plus violent. Le capitaine, alors, nous annonce qu'il faut rentrer à l'intérieur, que c'est trop dangereux de rester sur le pont. Mais on ne veut pas, on veut sentir cette allégresse encore et encore. Mais on obéit, on est bien obligé. On prend une dernière photo avant que les portes ne se referment. On reste derrière les vitres du pont promenade où on monte dans la salle panoramique pour apprécier le paysage de la mer en furie. Comme le buffet est toujours ouvert, on en profite pour manger un mini sandwich ou un gâteau. On ne perd pas le nord, on est en croisière, on veut en profiter. On a conscience de partager un moment fort. On est au milieu d'un déchaînement des éléments et c'est grisant. Et puis, la vie du bateau reprend son cours. C'est bientôt l'heure de dîner. Il faut se préparer, car c'est le jour de Noël. Nous n'étions pas alors dans l'Atlantique, mais en Méditerranée, entre la Corse et la Sicile. On allait nous servir le repas de Noël traditionnel anglais, qui a lieu le 25, et on ne risquait pas de le rater, même si la mer était déchaînée. Deux jours plus tard, on faisait escale à Palma de Majorque. Après avoir fait le tour de la ville à pied, mon mari et moi nous sommes installés dans un café car il voulait de la Wi-Fi, comme il dit toujours. Pendant qu'il surfait, j'ai lu El País, le journal national espagnol, et il parlait de la même tempête qui avait ravagé une partie de l'île le 26 décembre. J'ai montré le journal à mon mari et j'ai fait la réflexion qu'on l'avait échappé belle. Quels sont les signes d'une tempête ? Il se trouve que j'ai vécu à l'île de la Réunion et j'ai écouté les gens qui parlaient des signes qu'on voit dans le ciel ou sur la mer. Et surtout, j'en ai fait l'expérience en vivant au bord de la mer en Angleterre. Le signe le plus sûr est d'écouter les bulletins du capitaine à 9h, midi et 18h qui sont diffusés sur les parties publiques du bateau ou sur une chaîne de la TV dans la cabine. C'est Monsieur Météo et tout le monde l'écoute religieusement. Enfin presque. Et encore faut-il être dans les parties publiques. Si vous avez la chance d'avoir un hublot, vous êtes sur un pont de l'équipage et le steward qui s'occupe du ménage de votre cabine vient fermer le volet en fer épais des hublots. Le capitaine en a donné l'ordre car il va y avoir des vagues hautes. Quand cela arrive, je râle. Car on ne va plus avoir de jour. Ni voir la mer. Mais je suis contente car on va avoir du roulis. Bien sûr, l'autre signe est l'apparition des sachets à vomi au pied des escaliers devant les ascenseurs à chaque étage. Il existe des signes atmosphériques comme les cirrus, les petits nuages en forme de traînée qui annoncent la venue de nuages plus importants. La veille d'une forte tempête ou d'un cyclone, la mer est rouge au coucher du soleil. J'ai plusieurs photos avec ce phénomène. S'il va pleuvoir, la mer est étale et argentée. J'ai fait de magnifiques photos de cette couleur particulière. Si vous entendez la corne de brume, il fait brouillard. Quand les ports des ponts extérieurs sont fermés au public, c'est que le vent est trop fort. Certaines personnes vont quand même sur le pont et rentrent très vite. Il y a un autre signe qui ne trompe pas quand le bateau passe dans une tempête. Les piscines du bateau ont des vagues et se vident de leurs eaux. On ferme alors les piscines et les jacuzzi, car c'est trop dangereux pour les passagers. Voilà, vous en savez un peu plus sur les sensations que procure la mer en colère. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi chaque mercredi à 15h05 dans les croisières de Fredo. Au revoir.
C'est un fameux trois martin comme un oiseau. Il s'est haut, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Bien bon, là-bas.